ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, Idrissa Seloudia et Chérubin Dorsil à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, le sang a coulé de nouveau au Nigeria. Deux attentats attribués ont fait, à Boko Haram bien entendu, ont fait aujourd'hui plusieurs dizaines de morts dans le nord du pays.
Le pouvoir va changer de main en Tunisie. Caïb Essebsi remporte la présidentielle face au chef d'État sortant, Moncef Marzoukri.
Le secrétaire général de l'ONU appelle au redressement des économies et systèmes de santé des pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola.
Et nous reviendrons sur le meurtre de deux policiers à New York à un moment où la tension reste vive entre la police et les minorités suite à plusieurs bavures policières.
C'est vraiment dégueulasse. Au fond de moi, c'est inexplicable la peine que je sens.
Marc Elias, ancien chef de police à North Miami. Nous aurons comme d'habitude notre page économique, les sports et la musique, mais d'abord le journal.
Une puissante explosion s'est produite sur un marché de la ville de Bauchi, dans le nord-est du Nigeria, provoquant un important incendie, a annoncé la Croix-Rouge citée par l'AFP. Selon un responsable local, le bilan est lourd, mais aucun chiffre n'a été donné.
Auparavant, l'explosion d'une bombe avait fait au moins 20 morts et 21 blessés dans une gare routière de la ville de Gombe. C'est la deuxième fois cette année que cette station de bus est attaquée. Jean-Roger Bion.
D'après l'AFP, la Croix-Rouge est venue avec 20 sacs mortuaires qui ont tous été utilisés. Les efforts pour retrouver d'autres victimes se sont poursuivis. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le nord-est du Nigeria est une région régulièrement frappée par le groupe islamiste Boko Haram. L'état de Gombe est voisin de ceux de Borno et Yobe, les deux zones les plus touchées par l'insurrection islamiste de Boko Haram, qui a fait 13 000 morts et 1,5 million de déplacés en 5 ans. Les insurgés ont déjà revendiqué de nombreux attentats dans des gares routières visant souvent des passagers en partance pour le sud du Nigeria, majoritairement chrétiens.
Eh bien, au Sénégal, la Cour spéciale qui juge à Dakar pour enrichissement illicite présumé Karim Wad, ex-ministre et fils de l'ex-président Abdoulaye Wad, a fait part lundi qu'elle rendrait le 29 décembre une décision sur une demande de liberté provisoire pour le prévenu en détention préventive depuis avril 2013. Jacques Aristide.
C'est Henri Grégoire Diop, président de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite du Sénégal, qui a fait cette annonce à la reprise du procès de Karim Wad après 3 semaines de suspension. Le parquet et la partie civile ont déjà rejeté cette requête de liberté provisoire. Ils craignent notamment un risque de subornation des témoins et une fuite en France de Karim Wad, des arguments qui ne tiennent pas la route d'après les avocats de la défense. L'audience de ce lundi a été marquée par le retour à la barre d'un des principaux coprévenus de M. Wad, Ibrahima Abou Khalil Bourji, dit Bobo, un homme d'affaires présenté par l'accusation comme un prête-nom de M. Wad. Le fils de l'ancien président sénégalais est accusé d'avoir illégalement acquis 117 milliards de francs CFA, environ 218 millions de dollars, par le truchement de montages financiers complexes du temps où il était conseiller, puis ministre de son père. La défense maintient que son patrimoine s'élève à moins de 3 millions de dollars que Karim Wad a accumulé en tant que trader en Europe avant d'être embauché par son père.
En Tunisie, l'ex-premier ministre tunisien Béji Caïd Essebsi a remporté la présidentielle de dimanche face au président sortant Moncef Marzouki. Précision Eddy Issango.
L'instance électorale a annoncé la victoire de Béji Caïd Essebsi avec 55,68% de voix, victoire que les camps de ces derniers revendiquaient déjà dès la fermeture des bureaux de vote dimanche. D'après l'instance supérieure indépendante pour les élections, M. Caïb Essebsi a obtenu plus de 1,7 million de voix au second tour contre plus de 1,3 million pour son rival Moncef Marzouki, le président sortant qui a plutôt réuni 44,32% des suffrages. Les taux de participation s'étaient établis à 60,1% des inscrits. Les présidents sortants, Moncef Marzouki, a reconnu sa défaite à la présidentielle et félicité les vainqueurs Béji Caïd Essebsi, selon une annonce faite sur sa page officielle de Facebook. M. Marzouki avait, lui, été élu pour 3 ans par l'Assemblée constituante à la faveur d'un accord politique avec les islamistes d'Ennahda. Deux heurts ont éclaté lundi dans le sud de la Tunisie où certains habitants protestaient contre les résultats de la présidentielle.
Au moins 20 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées en Centrafrique dans des affrontements entre groupes armés qui ont éclaté vendredi et samedi dans la région de Bambari, dans le centre de la RCA. C'est ce qu'a appris aujourd'hui l'AFP auprès de la gendarmerie centrafricaine. Les incidents ont opposé des pôles armés et des ex-rebelles Seleka d'une part et des miliciens anti-Balaka de l'autre.
En République démocratique du Congo, un responsable local a dit aujourd'hui à l'AFP que 7 personnes ont été tuées et 5 autres grièvement blessées par des hommes armés dimanche soir dans un secteur minier de la province du Sud Kivu dans l'est du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il faut aider les économies dévastées par Ebola à se redresser et tirer les leçons de cette épidémie pour se préparer à la prochaine, a affirmé lundi le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de retour d'une tournée en Afrique de l'Ouest. M. Ban a souligné l'urgence de mettre au point une stratégie pour le redressement des économies et des systèmes de santé des pays affectés. Selon l'AFP, il a indiqué avoir donné instruction aux agences de l'ONU, en particulier le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, de se pencher sur ce dossier.
En Irak, la coalition dirigée par les États-Unis a poursuivi ce lundi ses frappes aériennes contre les militants de l'État islamique près du mont Sinjar. La veille, les combattants kurdes de la région, les Peshmerga, avaient réussi à briser le siège imposé par les djihadistes. Plusieurs unités de combat ont été atteintes et des véhicules et habitations appartenant aux militants ont été détruits, selon les dirigeants de la coalition. Par ailleurs, 7 autres frappes ont eu lieu à travers l'Irak, tandis qu'en Syrie, les attaques contre l'État islamique se sont concentrées autour de la ville de Kobané, limitrophe de la Turquie.
Rencontre au sommet à Kiev entre les présidents de l'Ukraine et du Kazakhstan. Petro Poroshenko et Nursultan Nazarbayev ont notamment discuté de la coopération militaire bilatérale et de la crise dans l'Est ukrainien. Cette rencontre intervient après la visite hier à Kiev du président du Bélarus, Alexander Loukachenko, qui a offert son soutien à M. Poroshenko.
Escalade dans le froid entre Washington et Moscou, situation liée notamment au rôle de la Russie en Ukraine, les États-Unis ont décidé de remplacer par les citoyens américains tous les employés locaux ayant rang de superviseur dans leur ambassade et consulat en Russie. Les précisions de Michel Joseph.
La mesure intervient alors que les relations entre les deux pays en sont à leur niveau le plus bas. Elle est prescrite par un projet de loi sur les renseignements introduit en mai par le député républicain Mike Rogers du Michigan et approuvé par le Congrès le 9 décembre. On s'attend à ce que le président Barack Obama promulgue la loi avant la fin de l'année. La mesure précise que tous les employés russes de l'ambassade et des consulats des États-Unis ayant rang de superviseur devront être remplacés par des citoyens américains. Elle est considérée comme une tentative des États-Unis de réduire leur dépendance vis-à-vis du personnel russe. Selon les analystes, cette décision traduit également la méfiance croissante des autorités américaines vis-à-vis des employés russes qui pourraient informer les services de renseignement russes des activités diplomatiques des États-Unis.
Faire le sport. Voilà, les autorités pakistanaises annoncent l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir pris part la semaine dernière au massacre de Peshawar, où près de 150 élèves et enseignants ont trouvé la mort. Le ministre de l'Intérieur accuse ces détenus d'être des facilitateurs de l'assaut revendiqué par les talibans, sans toutefois en préciser le nombre.
Dans son discours aujourd'hui aux membres de la Curie romaine, le pape François a eu des mots durs pour ses proches collaborateurs, Camille Gros-Didier.
Lors de la présentation de ses vœux de Noël, le pape a développé une réflexion sur le thème « La Curie romaine et le corps du Christ ». D'un ton très ferme, le souverain pontife a évoqué les nombreuses tentations qui peuvent guetter les membres de la Curie, appelant à un examen de conscience de chacun et invitant à une purification. Qualifiant l'Église d'hôpital de campagne, le pape a repris la métaphore du corps malade affaibli par ses péchés. Parmi eux, l'absence d'autocritique par la curie qui pourrait mener à un Alzheimer spirituel avec l'oubli de l'histoire du salut dans la vie. la mondanité, l'autoglorification, le carriérisme et l'opportunisme, le service se mutant alors en soif du pouvoir, ce qui peut mener à la calomnie ou la diffamation. Gardons-nous du terrorisme des bavardages, a lancé le pape. On dit que les prêtres sont comme des avions, on parle d'eux quand ils tombent, mais tant d'autres arrivent à voler.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant à la Minute Éco, tout sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, avec Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Gabi.
La lune de miel continue entre les habitants d'Abidjan et le tout nouveau pont de la capitale économique ivoirienne.
Oui, ils sont nombreux à aller à pied ou en voiture admirer l'ouvrage. L'utilisation est gratuite jusqu'au 1er janvier, mais sera payante à partir du 2. Emprunter le pont Henri Konan-Bédié devrait alors coûter entre 500 et 1000 francs CFA, selon le ministre des Infrastructures, Patrick Hachi, que cite l'AFP. Une perspective qui suscite quelques grincements de dents.
Et les Ivoiriens d'ici peuvent seulement admirer ce pont en photo, Jean-Roger Bion.
N'est-ce pas?
L'Égypte cherche à attirer plus d'investissements chinois et réduire le déficit de sa balance commerciale, a fait savoir la ministre égyptienne de la coopération internationale.
Najla Al-Awani et une importante délégation ministérielle séjournent en Chine pour préparer la visite à partir de mardi, demain donc, du président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi. L'Égypte et la Chine ont signé dans les années 90 un accord de coopération stratégique qui n'a pas réellement été mis en œuvre, selon la ministre. Plusieurs projets seront lancés avec les Chinois dans les domaines vitaux comme le transport, l'électricité, les chemins de fer et la remise en état des routes.
Et la Chine est à pied d'œuvre en Algérie, où elle a conservé en 2014 la place de premier fournisseur, ravie à la France en 2013.
Les chiffres du commerce extérieur algérien publiés révèlent en effet que la Chine vient en tête avec 7,44 milliards de dollars d'exportation vers l'Algérie, devant la France 5,89 milliards de dollars, suivi de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne.
Merci Jean-Roger Bien.
Et maintenant, comme prévu, le sport. Le tirage au sort du prochain championnat d'Afrique des moins de 20 ans a lieu ce 21 décembre 2014 au Caire. Eh bien, Bagassi Koura.
Oui, ça a bien eu lieu, oui, ce 21 décembre au Caire. Et on a eu donc deux groupes dans le groupe A. Le Sénégal aura comme adversaire le Nigeria, le Congo et la Côte d'Ivoire. Et dans le groupe A, on aura le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali et la Zambie. Le tenant du titre, l'Égypte, n'est pas qualifié pour cette 19e édition. Les demi-finalistes de la CAN 2015 iront en Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ce sera du 30 mai au 20 juin en Nouvelle-Zélande.
Et la CAF a effectué ce lundi le tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des Champions.
Décidément, c'est le week-end des tirages au sort et 58 clubs étaient au départ de ce tirage qui avait exempté 8 formations. Il s'agit notamment du champion d'Afrique en titre de l'Entente sportive de Sétif, du Coton Sport de Garoua, l'AC Léopard de Delouzi, le tout-puissant Mazembe, le CES Faction et l'Espérance de Tunis. Quelques affiches à noter au cours de ce tournoi préliminaire. Le Cercle Olympique de Bamako affrontera le Maghreb de Tétouan au Maroc. Le CW Sport, finaliste de la Coupe de la Confédération de la CAF, sera face à l'AS Kaloum de Guinée. Réaction ce soir de Rigaud Gervais, entraîneur du CW Sport.
Bon, je pense qu'on connaît bien le football guinéen et puis l'AS Kaloum n'ont pas été champions par hasard. Il faut le prendre au sérieux et puis il faut préparer ce match avec le sérieux.
On imagine que le fait d'avoir joué la finale cette année va vous pousser encore l'année prochaine à aller jusqu'en finale et pourquoi pas la Coupe.
Je pense que tout ce qu'on a fait en Coupe CAF, on aimerait le réussir au niveau de la Ligue des Champions. Donc on aura vraiment à cœur de ces dates et de tout faire, de profiter de notre expérience pour pouvoir aller très loin dans cette compétition.
Voilà, c'était Rico Gervais, entraîneur du CW Sport San Pedro. Il faut signaler que les matchs allés de ce tour préliminaire sont prévus durant le week-end du 13 au 15 février 2015 et les matchs retour deux semaines plus tard.
Les résultats de la NBA de la nuit dernière.
Oui, les Knicks de New York se sont encore inclinés, défaite 118 à 108 au Canada sur le parquet de Toronto. Les Cavaliers de Cleveland s'imposent à domicile sur leur parquet 105 à 91, 25 points de LeBron James. Dans le duel californien, Sacramento s'impose face aux Lakers 108 à 101, défaite de Boston à Miami.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici à Washington, au studio 13, chez Robin Dorsil et Idrissa Sedoudia, place au dossier du jour.
Eh bien, nous commençons par le Cameroun, où divers médias ont fait état de la découverte au cours du week-end d'un camp d'entraînement de Boko Haram à Guir-Vidik, département du Mayo-Danaï, dans la région de l'extrême nord. Les suspects, de jeunes enfants et les adultes qui s'occupaient d'eux, ont été acheminés à Maroua, la capitale régionale, pour enquête. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint à Maroua David Wenaï, directeur du bureau régional du journal L'Œil du Sahel.
En fait, ce n'est pas un cas d'entraînement. Selon mes sources d'information, les forces de maintien de l'ordre du Cameroun avaient reçu des renseignements sur le fait qu'il y a un groupe d'individus qui sont campés dans une grande concession à Guir-Vidik. Guir-Vidik se situe dans le département du Mayo-Danaï à l'extrême nord du pays. Alors, quand ils sont donc rendus sur le terrain, ils ont découvert des petits-enfants dont l'âge varie entre 7 à 15 ans. Donc, ils étaient au nombre de 80-84. Leurs encadreurs étaient aussi là. Ils étaient une vingtaine. Alors, quand on les a interrogés, ils disent tout simplement que non, ils sont venus, ces enfants sont venus pour apprendre le Coran. Donc, voilà comment on les a interpellés. Et ces enfants qui ont cet âge, il y a certains qui ont leur carte d'identité, alors qu'à 14, 15 ans, au Cameroun, il faut absolument avoir 18 ans. Ces enfants ne parlent aucune langue locale. C'est dans ce sens que l'armée les a amenés au niveau de la Légion de gendarmerie pour exploitation.
Alors, comment s'explique leur présence dans la zone de Guir-Vidik, dans le Mayo-Danaï, qui est de l'autre côté du département du Diamaré, plus proche du Nigeria?
Les gens pensaient que le Mayo-Danaï était épargné de ce phénomène des islamistes, parce que c'est la première fois qu'on découvre déjà ce genre de personnes suspectes. Le Mayo-Danaï, plus précisément la zone de Guir-Vidik, fait frontière avec le Tchad, le long du Rogon, et de l'autre côté, via le parc de Ouaza, le Nigeria. Donc, en réalité, ils peuvent traverser et faire des mouvements à travers le parc de Ouaza, qui est très large. Pour le moment, je ne peux pas donner avec certitude qu'on a découvert un camp d'entraînement de Boko Haram.
Et pendant ce temps, l'armée camerounaise continue de faire face aux attaques de Boko Haram dans l'extrême nord.
Il faut saluer vraiment l'effort du gouvernement parce que depuis l'événement des islamistes dans cette partie du pays, le gouvernement est en train de multiplier le renfort, de multiplier les dispositifs militaires. Alors, vous savez, dans certaines zones, par exemple dans le département de Mayo-Sava, ils ont changé de tactique. Au lieu de venir maintenant avec les armes surprendre, par exemple, les paisibles citoyens ou bien les forces de maintien de l'ordre, ils viennent maintenant mettre des mines pour exploser soit les maisons, les véhicules, en tout cas tous les passants.
David Wenaï, chef du bureau régional du journal L'Œil du Sahel à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé ce lundi l'identité du chef de l'État pour les 5 prochaines années à l'issue du second tour de l'élection présidentielle hier.
Il s'agit de Béji Caïd Essebsi, le leader de la coalition Nida Tounes. L'ex-premier ministre de 88 ans faisait face au président sortant Moncef Marzouki, 67 ans, opposant historique à la dictature tunisienne et qui avait été installé au fauteuil présidentiel fin 2011 grâce à une alliance avec les islamistes d'Ennahda. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Sadok Belaïd, professeur émérite à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.
Ces résultats sont clairs et définitifs. Le candidat Béji Caïd Essebsi a été élu au suffrage de 55,68% des voix contre 44% pour le challenger Monsef Marzouki. Donc, Monsieur Beji Khaïd Sepsi est proclamé pour le moment, selon les résultats primaires, président de la République. Voilà.
Donc, la victoire de Beji Khaïd Sepsi a été confirmée. Beji Khaïd Sepsi pourra-t-il sortir la Tunisie de la crise pour que le pays en finisse avec la transition?
Il aura beaucoup de difficultés. Les résultats des suffrages le montrent. Il y a beaucoup de résistance politique à son leadership. Le pays, après ces 4 années d'incertitude politique, passe par une très mauvaise période de crise économique, sociale, etc., avec un grand nombre de problèmes sérieux. Mais en toute objectivité, le candidat qui vient de réussir, c'est-à-dire M. Beji Khaïd Sepsi, est très probablement la personnalité politique qui est le plus capable de résoudre ces problèmes facilement, parce qu'il a quand même une légitimité bien assise dans son pays et il a par ailleurs la sympathie et la confiance, disons, des principaux partenaires internationaux de la Tunisie, les grandes puissances, mais aussi les milieux d'affaires, les investisseurs, etc. Et ça, c'est une question assez importante qui est à l'avantage de M. Beji Khaïd Sepsi et qui n'aurait pas fonctionné dans le cas du succès de M. Marzouki.
Rapidement pour terminer, professeur, qu'en est-il des islamistes des Narda? Se sont-ils impliqués dans cette présidentielle?
Non, comme vous le savez, il y a de très fortes et graves divisions à l'intérieur du parti qui ont fait que, finalement, le pays a, si vous voulez, renoncé à présenter un candidat de la Narda. Mais le fait est que une grande partie de l'électorat de la Narda a voté pour un candidat qui est M. Marzouki, l'actuel président provisoire, et qui a justement, si vous voulez, perdu les élections. Voilà.
Eh bien, c'était Sadok Belaïd, professeur émérite à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.
La mort de 2 policiers new-yorkais abattus à bout portant samedi continue de susciter beaucoup de commentaires. Un homme âgé de 28 ans, Ismail Brinsley, a abattu les 2 agents de police, Wenjian Liu et Raphaël Ramos, alors qu'ils étaient assis dans leur voiture de patrouille à Brooklyn. Il s'est ensuite enfui dans une station de métro où il s'est suicidé. Les syndicats de policiers sont très remontés. Pour une réaction, nous avons joint Marc Elias, ancien chef de la police de North Miami en Floride.
Voici ce qui est arrivé. Étant qu'un policier de carrière de 26 ans est arrivé jusqu'au chef de la police, c'est vraiment dégueulasse. Au fond de moi, c'est inexplicable la peine que je sens. Parce que, essayez de comprendre quelque chose. Ces officiers-là, ils ont des familles. C'est un père qui a des enfants. Et lui également, il est un enfant de quelqu'un. Il n'y a pas des mots pour expliquer ça. Essayez de comprendre quelque chose. J'ai un fils également. À l'âge de 14 ans, il me dit, papa, par exemple, si je vois une voiture de police qui approche la maison, tout à coup, je me dis, bon, est-ce que quelque chose est arrivé à mon père? L'enfant d'un policier souffre triplement plus qu'il regarde la télé. Parfois, l'enfant lui-même dit à son père ou à sa mère, je ne veux pas que tu sois un policier parce que je ne veux pas que quelque chose comme ça arrive. C'est ce que les auditeurs doivent essayer de comprendre. On regarde ce qui est arrivé. 2 policiers assis dans une voiture, mais c'est le travail qu'un policier fait chaque jour. Mais de toute façon, il va quand même travailler chaque jour, en sachant que peut-être il ne retourne pas chez lui.
Il arrive que dans ce cas, l'homme qui est accusé d'avoir abattu les policiers avait, dit-on, des troubles mentaux. Mais au-delà de tout ça, il y a un malaise dans les rapports entre les policiers et les communautés minoritaires surtout, en particulier les Noirs, il faut le reconnaître.
Moi, étant qu'un chef de police, surtout à North Miami, j'ai essayé, parce que la communauté haïtienne en faisait partie de quoi 70% de la communauté. C'est très important. La police doit servir la communauté et représenter cette communauté. Ça, c'est très important. Mais parfois, c'est difficile également. Parce que je savais faire avant, chef de la police, des investigations internes où j'investiguais des policiers qui faisaient des choses qu'ils ne devaient pas faire. Je comprends ça.
À cause de la mort de ces deux policiers, est-ce que les efforts qui étaient en cours pour améliorer les rapports entre la police et les minorités ici aux États-Unis, est-ce que vous croyez que ces efforts vont être un peu handicapés à cause de ce qui vient de se passer à New York?
Non, pas du tout, parce qu'un policier, il est un professionnel. Oui, on comprend que pour le moment, ça appelle beaucoup de peine, mais au nom des officiers qui ont été tués, il faut continuer.
Marc Elias est un ancien chef de police dans la ville de North Miami, en Floride.
Ici à Washington, une tradition mystique a été sauvegardée depuis des décennies dans un petit parc peu connu. Chaque dimanche après-midi, excepté pendant les mois froids de l'hiver, des percussionnistes y font entendre les rythmes endiablés et cela dure depuis un demi-siècle. Des centaines de personnes entourent les artistes et nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à effectuer des pas de danse. Le Drum Circle, dimanche, reflète une histoire passionnante de tambour dans la communauté africaine-américaine. Jean-Roger Bion nous invite à Meridian Hill Park, dans la capitale américaine.
Oh, je ressens beaucoup de puissance et d'énergie ici quand je viens battre du tam-tam.
Ce monsieur, c'est Shango Kwame. Il joue au tam-tam depuis plus de 20 ans.
Jouer ici me rappelle l'Afrique, la mère patrie. Partout en Afrique, les tambours sont joués pour célébrer. Les gens l'utilisent pour les fêtes, si la mer réchauffe, juste venir ici et jouer à chaque fois.
Plus de 50 batteurs, principalement des Africains américains, jouent des instruments de percussion de différentes tailles, formes et origines. Certains sont professionnels, d'autres des débutants, mais tous ensemble, dans cette assemblée circonstancielle, créent à l'unisson une rythmique de tambour africain.
On parle de notre type de musique aujourd'hui, Idrissa Seloudia, dans cette édition, celle du fameux Joe Cocker qui nous a laissé.
Oui, Joe Cocker est décédé à l'âge de 70 ans, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son agent. Eh bien,
pour ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, qui est-il? Qui était-il?
On le présente comme un chanteur rock soul, mais pour moi, c'est ce qu'on appelle un blue-eyed soul, un chanteur blanc de Grande-Bretagne, à la voix rock dans la pure tradition des grands souls de des années 60 et 70. C'est cette reprise de la chanson des Beatles, dont l'original a été interprété par le batteur Ringo Starr, qui retiendra l'attention. On dit que la copie n'égale jamais l'original, ben c'est ce que les disent n'ont jamais entendu Joe Cocker with a little friend, help from my friends.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell don't it say no more.
Wow. With a little help from my friends, Joe Cocker, décédé à l'âge de 70 ans ici aux États-Unis.
On met fin à cette édition qui a été dirigée par Michel Joseph. À la technique, nous avions Wagner Robert. Ici chez Romain Dorsil.
Et Idrissa Seroudia.